Voilà, mes frères et sœurs, c'est encore avec joie que je me trouve parmi vous ce matin. La joie de vous revoir. J'ai failli, avec mon épouse, ne pas pouvoir venir parce que nous avons également le bonheur de vous annoncer que pour la cinquième fois, nous sommes arrière-grands-parents. C'est donc dans le foyer de nos petits-enfants, Estelle et Jonathan, qu'est né le petit Noam. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. Le bébé et la maman vont bien, et les arrière-grands-parents aussi, comme vous le voyez. Je vous propose ce matin de lire avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 13. De Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Seigneur, ta parole est pour nous toujours un sujet de joie. Elle est le moyen par lequel tu fortifies notre foi. Et ensemble avec mes frères et sœurs ici, nous plaçons toute notre confiance en toi. Tu es le seul, Seigneur, qui est capable de donner à nos cœurs tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils soient fermes en toi et que nous puissions poursuivre notre course avec joie jusqu'à ce jour glorieux où tu vas venir nous chercher. Nous croyons que tu viens bientôt, Seigneur, et ceci réjouit notre âme. Mais en attendant ce jour, nous te demandons, garde-nous fidèles, garde-nous les yeux fixés sur toi, garde-nous dans la persévérance de la foi. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te rendons grâce ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, l'église de Thessalonique a été fondée par l'apôtre Paul lui-même et dans des circonstances très particulières qui nous sont rapportées dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. La Bible nous dit que juste après ce temps particulièrement difficile que Paul et Silas ont connu à Philippe, car ils ont été emprisonnés à cause de ce témoignage qu'ils ont rendu à la gloire de Dieu, ils ont été roués de coups, maltraités, Et puis, après avoir été délivré de la prison d'une façon miraculeuse, ils ont également eu la joie de voir le geôlier de cette ville de Philippe eh bien, se tourner vers le Seigneur avec toute sa famille. Et après cette expérience qui a été quand même extraordinaire, Paul a poursuivi sa route de missionnaire et il est arrivé dans la ville de Thessalonique. Et à Thessalonique, il y avait une grande, importante colonie juive. Et par voie de conséquence, il y avait également une synagogue. Et dans le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que pendant 3 sabbats de suite, Paul a prêché la parole de Dieu dans la synagogue et il discutait avec les Juifs en essayant de leur démontrer que Jésus est le Messie, celui qu'ils attendaient. Et finalement, il y a eu un certain succès parce que l'Esprit de Dieu a appuyé la prédication de l'apôtre Paul et la Bible nous dit que plusieurs Juifs se sont tournés vers le Seigneur et ont suivi Paul et Silas. Mais il est également dit qu'une multitude de Grecs qui croyaient en Dieu se sont également convertis au Seigneur par la prédication de Paul. Et puis, il y avait beaucoup de femmes de qualité qui ont également accepté le message de l'Évangile. Et voilà comment a démarré l'œuvre de Dieu à Thessalonique. Et ce qui est remarquable, c'est que ces gens ont été tellement touchés par la grâce de Dieu que la Bible rend ce témoignage, se convertissant à Dieu, ils ont abandonné les idoles et n'avaient plus désormais qu'un seul désir, c'était de servir le Dieu vivant et vrai qui leur avait envoyé un tel sauveur dans la personne du Seigneur Jésus. Et cette église a grandi dans la foi, elle est demeurée ferme et confiante dans le Seigneur, bien qu'ils ont été troublés pendant un temps par des faux docteurs qui sont passés au sein de cette église et qui disaient, à cause des temps difficiles qu'ils étaient en train de vivre, que le jour du Seigneur était arrivé. Comme moi, vous savez, frères et sœurs, que lorsque la Bible parle du jour du Seigneur, elle parle de ce jour terrible, redoutable, où il viendra pour juger le monde. Mais avant que ce jour ne vienne, je dirais que avant même que la grande tribulation soit le partage de ce monde et de ceux qui ont refusé la grâce du Seigneur, il doit y avoir quelque chose de glorieux pour nous, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Et d'ailleurs, Paul a dit à ses Thessaloniciens, au travers de cette lettre, qu'il leur avait enseigné ces choses-là et qu'ils devaient rester fermes dans ce qu'ils avaient reçu en tant qu'instruction de sa part, venant de la part du Seigneur. Et bien sûr, il leur a parlé de l'œuvre de l'Antichrist dans juste les versets qui précèdent la lecture que nous avons faite. Eh bien, il a parlé du mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. Il leur a dit que l'impie allait paraître et que le Seigneur Jésus allait le détruire ensuite par le souffle de sa bouche. Et il a quand même annoncé la chose suivante, c'est que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qu'ils ont cru au mensonge. Ils étaient donc troublés parce que certains docteurs, faux docteurs plutôt, leur disaient, eh bien, ce temps-là est arrivé, il est là. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison. Parce que nous sommes aussi dans une période qui est particulièrement troublée dans ce monde. Et je pense que, comme moi, eh bien, vous ressentez la tristesse de ce qui peut se passer dans ce pays au Moyen-Orient, toutes ces difficultés terribles, ce que nous connaissons même ici dans notre propre pays. Oui, c'est vrai que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre dans le monde. Mais il y est, je dirais, depuis le commencement de l'Église, parce que le rôle de Satan, c'est de toujours intervenir pour freiner, arrêter, empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser, d'aller de l'avant, de progresser. Mais la foi quand même de ces Thessaloniciens était telle que malgré les craintes qu'il y avait dans leur cœur, malgré les doutes qui provenaient de ce faux enseignement, eh bien, ils gardaient les yeux quand même fixés sur le Seigneur. Et avez-vous remarqué avec quelle tendresse l'apôtre Paul s'adresse à eux? Il dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur ». C'est vrai que Paul avait une affection particulière pour cette Église. Quand on lit le premier chapitre de la première épître, il désigne ces chrétiens de la façon suivante et il dit « Frères bien-aimés de Dieu ». Ici, au verset 13 de cette deuxième lettre et au chapitre 2, il dit « Frères bien-aimés du Seigneur ». Mais juste un peu avant, quelques versets au préalable, dans cette deuxième lettre aussi, il s'adresse à eux et il leur dit la chose suivante. Nous avons une telle affection pour vous. Vous êtes tellement chers à nos cœurs. Il dit que au moment même où nous vous avons annoncé la parole, notre désir c'était de vous donner la parole, mais nous étions même désireux de donner notre vie pour vous. Nous nous apercevons là que Paul est ce véritable berger qui a l'amour des âmes, l'amour des brebis qui appartiennent au Seigneur, qui est prêt à donner sa vie pour eux, et il est aussi constamment en train de rendre grâce à Dieu pour le salut qui est le partage de ces chrétiens. Et il leur répète ceci, « Vous avez été choisis dès le commencement pour le salut. » Et c'est en cela qu'il veut les consoler et qu'il veut les encourager. D'abord, il dit « Nous devons ». C'est pour lui une obligation. Il ne peut pas faire autrement que de rendre grâce à Dieu pour le travail qui a été accompli dans le cœur de ces chrétiens. Vous savez, frères et sœurs, nous avons tous beaucoup de raisons, malgré les circonstances difficiles que nous pouvons traverser, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans de nombreuses vies. Je vous ai entendu ce matin et la plupart d'entre vous, vous avez remercié le Seigneur pour son salut, pour le don de la vie éternelle, pour la grâce de Dieu qui est votre partage. Bien, tout cela doit nous pousser à être reconnaissants à Dieu, parce que ni vous ni moi ne méritions de sa part d'être aimés de cette manière-là. Et avez-vous remarqué, il est dit, vous avez été choisis dès le commencement pour le salut. C'est-à-dire que dès avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait et Dieu nous a sauvés. Et il y a une chose que nous ne devons jamais lâcher, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments d'épreuve les plus grands, dans les moments où notre cœur peut ressentir une certaine souffrance, nous ne devons jamais oublier que nous avons été choisis de Dieu pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Car voyez-vous, si nous appartenons au Seigneur, alors il doit y avoir une œuvre de sanctification qui s'accomplit jour après jour dans notre vie et dans notre cœur. Pourquoi? Parce que même ici, dans cette lettre, mais dans un autre endroit, l'apôtre Paul insiste et il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais comment est-ce que nous pouvons obtenir la sanctification de nos âmes? De la même façon que nous avons obtenu la justification. Car la Bible dit que ceux qui ont été appelés, et nous faisons partie de ceux-là, eh bien, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, l'apôtre continue et il dit, il les a sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, eh bien, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que, je dirais d'une manière potentielle, tout cela est notre partage en Jésus-Christ. Vous imaginez, frères et sœurs? Maintenant, nous connaissons des moments troublés et évidemment autour de nous, il y a bien des choses qui peuvent nous faire de la peine. Mais n'empêche que notre place, elle est par la foi en Christ qui lui-même est assis à la droite du Père et ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais Dieu ne peut pas nous tromper. Il est fidèle et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Voilà donc un sujet de joie dans les moments les plus difficiles. Nous rappeler sans cesse qu'il nous a choisis pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Je vais ajouter quelque chose. Tous nous pouvons être confrontés à des moments de forte tension dans notre vie. Le futur peut nous paraître très incertain et le présent peut nous mettre comme hors de portée de chacun d'entre nous, ne sachant trop quoi faire. Et puis, quand nous regardons au passé, il peut y avoir beaucoup d'amertume dans le cœur, pour ne pas dire parfois plus que de l'amertume, à cause de certaines choses qui ont caractérisé notre vie passée, puis des expériences même négatives que nous avons pu faire les uns et les autres. Mais dans tout cela, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C'est que le Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il est toujours à nos côtés et a promis de ne jamais nous abandonner. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est ce qu'il a enseigné dans cet épître. Mais nous sommes destinés à la gloire. Et un jour, nos yeux verront le Seigneur. Un jour, nous connaîtrons cette gloire ineffable. Mais déjà, nous pouvons jouir ici-bas d'un ciel si beau et si parfait par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Je sais, frères et sœurs, que c'est dur dans des moments comme ceux-là où nous pouvons traverser certaines difficultés, de bien, je dirais, analyser cela, de bien le saisir, de bien le prendre par le moyen de la foi. Mais c'est pourtant une glorieuse réalité. Le Seigneur a dit, quand bien même une mère abandonnerait le fruit de ses entrailles, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ainsi, ici, dans ce passage, après avoir rappelé à ces chrétiens qu'ils ont des privilèges malgré tout, qu'ils sont appelés de Dieu et que l'œuvre de sanctification de l'Esprit se fait dans leur cœur et dans leur vie, qu'ils ont la foi en la vérité, qu'ils sont aussi aimés de Dieu d'une manière particulière, alors il va les appeler à une certaine stabilité. Et c'est de cette manière qu'il leur dit demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Frères et sœurs, n'oublions jamais que le but du malin, c'est de détrôner Christ de notre cœur. Parfois, nous pensons qu'il s'attaque à nous, à notre personne, à chacun d'entre nous. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais ce qu'il vise avant tout, c'est Christ dans notre cœur et dans notre vie. C'est l'ennemi de Christ. Le diable est l'adversaire de notre Sauveur et de notre Rédempteur. Et s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas supporter, c'est de voir Christ régner dans notre vie. Et voyez, il règne dans notre vie par le moyen de son esprit et aussi par le moyen de sa parole. Et avez-vous remarqué combien aujourd'hui le malin attaque la vérité de Dieu? Parce que nous sommes dans ce temps-là, effectivement, où les gens croient davantage au mensonge qu'à la vérité de Dieu. Écoutez, cette semaine même, j'étais frappé en entendant un journaliste, c'était sur une radio particulière, France Info, pour ne pas cacher la radio où j'ai entendu cela. Et ce journaliste disait qu'il fallait dans les écoles enseigner, instruire, et il disait surtout il faut mettre en garde tous les élèves, tous les enfants contre tout fanatisme et particulièrement tous les extrêmes dans le domaine de la religion. Et jusque-là, je disais, bon, ça va, nous pouvons être d'accord. Mais il a ajouté quelque chose qui m'a surpris. D'un seul coup, il a dit, quand on pense quand même qu'il y a des personnes qui ne croient pas à la théorie du darwinisme, alors là, j'étais très surpris. Et il a ajouté, eh bien, s'ils ne croient pas au darwinisme, eh bien, c'est qu'ils sont dans l'obscurantisme. Et je me suis dit, mais celui qui est dans l'obscurantisme, c'est lui. Parce qu'en fait, Darwin, les théories de Darwin, il y a bien longtemps qu'elles sont dépassées. Et même des scientifiques non-croyants, eh bien, ont déjà démontré que ces théories-là sont dépassées. Mais je me suis en même temps aperçu de cela. Ça veut dire donc qu'on traite d'obscurantistes tous ceux qui ont foi en la vérité et qui, dans le fond, rejettent tous les arguments des hommes qui vont à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Et tout est fait sur le plan politique, mais dans bien des domaines, pour que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu soit considéré comme extrêmement dangereux. Mais nous savons que ce qui est dangereux, c'est le péché. Ce qui est dangereux, c'est la corruption dans laquelle le monde est en train de s'enfoncer. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, mes frères et sœurs, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Mais écoutez bien, la parole de Dieu à laquelle nous devons nous attacher, ce n'est pas simplement celle que nous avons l'habitude d'entendre à la réunion, pas celle du dimanche matin, pas celle non plus de la réunion de prière à l'étude biblique. Oui, bien sûr, elle est bonne celle-là, bien sûr nous pouvons la recevoir, mais les plus grands progrès, vous ne les ferez pas avec ça. Les plus grands progrès, c'est dans votre méditation personnel, individuel, d'entre autres relations avec Dieu, quotidienne. Et c'est ce qui fait défaut bien souvent aujourd'hui, parce que les chrétiens ont tout simplement l'habitude de venir recevoir à la réunion. Mais à la réunion, on ne vient pas seulement pour recevoir, on vient aussi pour donner. Et pour donner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être en harmonie avec l'Écriture, parce que l'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, eh bien, pour encourager ces chrétiens, Paul leur dit « Demeurez ferme dans les instructions que vous avez reçues ». Autrement dit, ferme aussi dans la saine doctrine. Et il dit, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible et que nous avons besoin de mettre en pratique. Des fois, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Mais lisez les Épîtres. Et vous allez voir tous les commandements qui sont donnés par le Seigneur lui-même au travers des apôtres. Dimanche dernier, dans l'assemblée d'Avignon, nous méditions le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Et juste après avoir dit « Offrez vos corps en sacrifice vivant », Paul fait le détail de tout ce que nous devons faire dans l'Église. Vous allez voir tous les commandements qui sont là. Je vous assure, frères et sœurs, quand on prend le soin de s'arrêter sur chacun de ces commandements, sur chacun de ses ordres, sur chacune de ses instructions, eh bien, on n'a plus le temps de se plaindre. Mais on demande à Dieu, aide-moi pour que cela devienne une réalité dans ma vie. Nous ne devons pas être des théoriciens. Nous ne devons pas être seulement des religieux habitués à venir aux réunions. Il doit y avoir l'assimilation de la parole de Dieu par une méditation quotidienne, personnelle, un attachement au Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est là, dans la vallée, lorsque nous sommes seuls avec le Seigneur, que les progrès les plus évidents peuvent être réalisés. Parfois, dans une réunion comme celle-ci, un culte d'adoration, ou dans une autre réunion où nous sommes ensemble, nous pouvons nous faire du bien. Et puis là, parfois, il y a des moments d'émotion, des moments d'exaltation, et grandes sont les résolutions à ce moment-là. Mais il faut pouvoir les mettre en pratique par la suite. Et je m'aperçois que bien souvent après que les moments où nous sommes ensemble sont passés, on se retrouve seul face aux pressions de la vie, face aux tentations, face à tout ce que la vie a comme exigence, et là, la foi commence à flancher. Et pourtant, c'est là, et là, je vous assure, que les choses les plus merveilleuses peuvent être réalisées dans cette relation étroite avec Dieu. Les sommets, c'est bien, mais c'est dans la vie de tous les jours et face aux obligations de chaque jour que nous avons la possibilité de démontrer notre foi et de démontrer que nous demeurons fermes dans la parole de Dieu. Je voudrais vous donner une illustration parce que quelqu'un a dit qu'effectivement, sur les plus hauts sommets, il y a peu de végétation souvent. Et c'est surtout dans la vallée que la végétation est florissante. Et dans notre région, d'ailleurs, vous le savez, le Vaucluse, Vaucluse, ça veut dire vallée close. Il y a ce que les Vauclusiens appellent le géant du Vaucluse. Et le géant du Vaucluse, c'est le Mont Ventoux. Et le Mont Ventoux, même en plein été, lorsqu'il fait une chaleur torride, eh bien, on a l'impression, quand on le regarde de loin, que le sommet est enneigé, mais en réalité, il n'y a pas du tout de neige. Mais c'est parce que, pardon de l'expression, il est complètement pelé. Il n'y a pas de la verdure, il n'y a que de la rocaille, il n'y a que des pierres. Mais comme cela réfléchit la lumière du soleil, on a l'impression que c'est brillant comme la neige. Mais il n'y a pas de végétation en haut. Par contre, en bas, il y a une végétation luxuriante. Bien, voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est pareil. Pouvons être ensemble et puis parfois dans des réunions que nous appelons extraordinaires, Alors nous connaissons quelque chose de particulier et il nous semble là que nous avons réalisé un progrès formidable. Mais écoutez bien, souvent c'est juste une rosée qui est bien vite dissipée. Ce qui est important, c'est que quand nous descendons dans la vallée, nous demandons au Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons entendu et ce que nous méditons quotidiennement, que cela soit réalisé, accompli dans notre vie. Et je vous assure, alors rien va nous empêcher de réaliser des progrès avec le Seigneur, parce que dans les temps où tout va bien, comme dans les temps où tout va mal, Dieu est à côté de nous et il est le seul qui est capable de nous fortifier et de nous enrichir à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, par ces paroles, Paul espère consoler le cœur de ses Thessaloniciens et d'ailleurs il le rappelle au verset 17 que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. En toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Il y a deux choses là. Vous savez, c'est très important que nous soyons capables de dire « Oui, je sais ce à quoi le Seigneur m'appelle. Je sais ce que je dois faire. » L'œuvre de Dieu ne repose pas seulement sur le pasteur. L'œuvre de Dieu ne repose pas seulement sur quelques-uns. L'œuvre de Dieu repose sur tous les chrétiens. Toute bonne œuvre, frère, sœur, quelle est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé? Ah, tu vas dire, oui, mais moi je suis tout petit, moi je suis insignifiant. C'est pas comme cela qu'il faut parler. Et d'ailleurs, dans le corps du Seigneur, eh bien, tous nous avons besoin les uns des autres. Quand on pense à la manière dont Dieu lui-même a formé ce corps, et je disais, il n'y a pas bien longtemps, dans ce corps, tous les membres sont indispensables et sont au service les uns des autres. Je disais, pardon de répéter cela il y a à peine quelques jours, voyez, moi je suis reconnaissant à Dieu de ce que dans ma main il ne m'a pas donné 5 pouces. Ils sont tous différents, les doigts. Et on a autant besoin du petit doigt que du gros doigt. Et je remarque aussi une chose, ce qui est important aux yeux de l'Éternel, eh bien, n'est pas toujours visible. Regardez dans notre corps. Qu'est-ce que vous voyez de moi? Vous voyez mon visage, vous voyez mes mains, vous pouvez voir mes jambes. Mais vous savez, si par exemple je n'avais pas cette main-là, je pourrais continuer à vivre. Si par exemple je devais être amputé d'une jambe, je pourrais continuer à vivre. Et nous disons pourtant, c'est important une jambe, c'est important une main, c'est important un bras. Oui, mais même si je ne les avais pas, je vivrais. Mais il y a des organes que nous ne voyons pas, mais sans lesquels il serait impossible de vivre. Si on m'enlève le cœur, alors je ne vais pas pouvoir vivre. Si on m'enlève l'estomac, bien qu'on opère de l'estomac, mais est-ce qu'on sait que ça peut se reformer? Mais si on n'avait pas du tout d'estomac, on ne pourrait pas continuer à vivre. Vous voyez, il y a des organes que Dieu a mis dans notre corps. Ils sont invisibles, mais ils sont indispensables. Et la vie de Dieu, elle peut être communiquée, passée par le moyen d'organes du corps du Christ, qui ne sont pas visibles, mais qui sont indispensables. Parce que quand ils sont invisibles aux yeux des hommes, ils se tiennent vraiment visibles aux yeux de Dieu dans la prière, dans l'intercession, dans la lutte, dans le combat. Et il faut évidemment que nous soyons affermis, que nous développions les bonnes œuvres, celles que Dieu agrée, non pas pour le salut, enfin, il y a longtemps que nous avons dépassé ce stade-là. On ne fait pas de bonnes œuvres pour être sauvés, c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons de bonnes œuvres, mais encore faut-il les faire. Parce que l'Esprit de Dieu auquel nous croyons est celui qui crée le vouloir et le faire. Et ensuite il est dit, mais aussi en toute bonne parole. Vous savez, avec la parole qui sort de notre bouche, il y a bien des possibilités de tuer, de faire du mal, de blesser, d'exhorter, de consoler, d'édifier. Toute bonne parole. Mais pour que la bonne parole sorte de notre bouche, il faut que notre cœur soit rempli de cette parole aussi. Puisqu'il est dit quelque part, et vous connaissez ce passage aussi bien que moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi donc, nous avons besoin de cette relation avec Dieu. Et là, eh bien, Paul est en train d'exhorter ses chrétiens. Il leur dit, mais oui, c'est vrai, nous vivons des temps difficiles, c'est vrai, il y a la manifestation, déjà, l'action de cet l'esprit de l'Antichrist qui est là. C'est vrai, mais c'est pas la grande tribulation, parce que vous n'êtes pas appelé à la grande tribulation. Vous êtes appelé à connaître la gloire de Christ. Alors, réagissez, comportez-vous d'une manière qui soit différente, et dans le fond, eh bien, que votre foi vous amène à concrétiser par des actions et par la parole ce que vous croyez dans le fond de votre cœur. Et après avoir dit cela, alors il passe à une autre étape. Et il dit, au reste, frère, priez pour nous. Ah là, je veux m'arrêter. Savez-vous, mes frères et sœurs, que des écrivains du Nouveau Testament, il est le seul à demander la prière en sa faveur. Il y a 14 lettres que cet homme a écrites. Quand je dis 14, c'est parce que, personnellement, je suis convaincu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Paul. Mais bon, comme ce n'est pas dit, alors on va faire abstraction de cela. Alors, on va oublier, là, l'Épître aux Hébreux, mais il a écrit 13 lettres. Vous pouvez les compter, chercher dans votre Bible, vous allez voir. Et c'est le seul qui dit, priez pour nous, priez pour moi, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Je voudrais donc ici m'arrêter quelques instants sur cette vie de prière qui doit être la nôtre. Et ici, nous allons voir les trois sujets qu'il met en avant et pour lesquels, justement, ces Thessaloniciens devaient prier. Première chose, prier pour que la parole de Dieu se répande. Vous savez, je suis persuadé, et je ne crois pas me tromper en disant cela, que dans chacun de vos cœurs, il y a un désir. C'est que beaucoup d'âmes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvées. Je suis bien sûr que vous voudriez que cette Église soit remplie d'hommes et de femmes qui sont sauvés et régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, l'évangélisation, eh bien, sur quoi repose-t-elle? Sur le ministère d'un évangéliste? Oui, c'est vrai. Dieu peut utiliser un évangéliste. C'est un don qu'il fait à l'Église. Un ministère don qu'il fait à l'Église. Mais il n'y a pas que cela. La parole de Dieu, pour se répandre, eh bien, nécessite plus que certaines stratégies, les moyens humains qui des fois sont utilisés pour attirer les âmes, mais les attirer dans un lieu plutôt que de les amener au Seigneur et à une véritable conversion. Et c'est la raison pour laquelle la prière est tellement importante dans le domaine de l'évangélisation. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que malgré les temps difficiles que nous vivons, il y a quand même de nombreux cœurs qui ont soif de la parole. Et cette soif de la parole, elle vient en réponse à la prière de l'Église. Nous devons demander au Seigneur qu'il suscite un intérêt dans le cœur des personnes qui sont dans ce monde aujourd'hui perdues. Mais, comme vous le savez, ce n'est pas la peine de tendre un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Mais si quelqu'un a soif, alors à ce moment-là, le message de l'Évangile, il aura un impact. Et je suis étonné, je vous assure, étonné, parce que nous nous rendons compte ces derniers temps qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent dans l'Écriture quelque chose, qui ont soif. Il y a à peine quelques jours, un jeune homme de 16 ans a reçu un cadeau pour son anniversaire à 16 ans, une Bible de la part de ses parents qui ne sont pas des croyants, je dirais des croyants fidèles, ils ne sont pas membres en tous les cas de nos églises, mais le garçon, lui, a demandé comme cadeau une Bible. Alors, ils ont donné cette Bible-là. C'était d'ailleurs dimanche dernier, son anniversaire, et il a reçu en cadeau cette Bible. Comme il a été en contact avec un chrétien de chez nous, le chrétien était un peu surpris de voir ce jeune homme ayant la soif, comme ça, de lire la Bible. Et le garçon lui a dit, « Mais vous savez, comme moi, il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont soif de connaître ce qui se trouve dans la Bible. » Alors là, moi, je me dis, l'Église a besoin de se réveiller. On dit tellement de fois, « C'est dur, c'est dur, c'est dur. » Mais il y a des gens qui ont soif. Et il faut demander à Dieu qu'il nous aide à entrer en contact avec ces personnes-là. Et dans notre propre assemblée, il y a quelques personnes qui se sont tournées vers le Seigneur, pas en contact avec le pasteur, pas en contact avec qui que ce soit, mais simplement en lisant la parole de Dieu. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles, certains connaissent ici, parce qu'elle est venue ici aussi, elle s'est convertie simplement en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu est d'une grande efficacité, mais il faut que les chrétiens prennent conscience qu'ils doivent prier pour que la parole se répande. Ça, ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail du Saint-Esprit en réponse à la prière des chrétiens. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est prier pour que la parole soit glorifiée. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ceci veut dire que le désir de l'apôtre était que non seulement la parole soit acceptée, mais qu'elle soit mise en pratique, qu'elle soit obéie. Parce que le seul moyen que la parole de Dieu soit glorifiée, c'est quoi? C'est qu'il y ait un témoignage en harmonie avec l'Écriture. Et quand les personnes mettent en pratique ce qui est écrit, alors là, la parole est glorifiée. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, il y en a des sujets de prière. Et là, nous avons intérêt à nous tenir devant Dieu pour que cela se réalise. Alors, je sais, Je sais très bien que Dieu toujours veille sur sa parole pour qu'elle ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Retenez le verbe. « Qui sort au présent de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand je dis, retenez le verbe qui sort au présent de ma bouche, c'est pas qui est sorti. Celle-là, oui, il y a longtemps qu'elle est sortie de la bouche des prophètes. C'est celle-là que nous annonçons. Oui, mais quand nous annonçons cela, il faut qu'au moment où nous le faisons, notamment dans le domaine de l'évangélisation, ce soit guidé par l'Esprit de Dieu pour que cette parole corresponde aux besoins des cœurs au moment précis. Et c'est là que la parole de Dieu, eh bien, est aussi glorifiée. Des fois, on rappelle ce qui est écrit sans que ce soit le moment de le faire réellement. Mais quand c'est guidé par l'Esprit de Dieu, alors elle pénètre et elle devient comme une rosée, une pluie bienfaisante. Et le cœur alors, il va être prêt et disposé à répondre à l'invitation de Dieu. Et la troisième chose, c'est pour laquelle Paul demande de la prière, c'est d'être délivré des hommes méchants et pervers. Oh, mais il n'y en a pas, ça. Hein? À une église, être délivré des hommes méchants et pervers. Oui, c'est un souci pour Paul. Même quand il adresse une certaine exhortation à son collègue Timothée, il lui dit ceci, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Et à un moment donné, il dit simplement ceci, au verset 13 du troisième chapitre de sa deuxième lettre à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » De la bouche, il peut sortir des choses qui, des fois, sont terribles. Et les hommes méchants et pervers, ça a toujours existé. Ils ont fermé leur cœur à la grâce de Dieu. Et pardonnez-moi, frères et sœurs, de dire cela. Mais je vous rappelle simplement un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Épître de Jude, où il est dit que des hommes impies peuvent se glisser dans les rangs de l'Église. Ils se glissent là. Et qu'est-il dit d'eux? Il est dit, de leur bouche sort comme un torrent de choses mauvaises. Et notre bouche n'est pas faite pour exalter le mal, mais pour glorifier Dieu et édifier les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pour cela, eh bien, il faut prier. Je vous rappelle simplement ces trois points. Priez pour que la parole se répande. Priez pour que la parole soit glorifiée, c'est-à-dire mise en pratique, et priez aussi pour être délivré des hommes méchants et pervers qui s'opposent toujours au progrès de l'Évangile, au progrès de l'Église. Ça a été de tout temps. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans la prière, nous pouvons être plus que vainqueurs de cela. Nous ne sommes pas appelés au mensonge, nous sommes appelés à la vérité, nous ne sommes pas appelés à être sous la domination de l'ennemi de notre âme, ni à connaître la colère à venir, mais nous sommes appelés à connaître la gloire et à la manifester dans notre vie. Je termine avec ce verset. Dieu est fidèle. Et si nous le contemplons jour après jour, la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en son image. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse.